tout de suite le journal.
Merci d'écouter RFI. Il est 9h à Paris, 7h en temps universel.
Grégory Lesca.
Bonjour à toutes et à tous. L'Aquarius 2 dans la tourmente. Le navire affrété par Médecins Sans Frontières et SOS Méditerranée cherche un port pour l'accueillir et pour débarquer les migrants secourus en mer. Mais les pays européens ne se bousculent pas. La France dit chercher une solution européenne. Et dans le même temps, le navire pourrait à l'avenir rester bloqué à terre faute d'immatriculation. Le début des discours des dirigeants. Aujourd'hui à la tribune des Nations Unies à New York, Emmanuel Macron à San Juan ou encore Donald Trump sont attendus. Ces interventions seront un bon baromètre des relations internationales à l'heure où le multilatéralisme est de plus en plus remis en cause. Dans l'actualité également, Israël qui se dit préoccupé après la livraison de missiles par la Russie aux troupes syriennes. Le fils de José Eduardo dos Santos placé en détention provisoire en Angola, soupçonné d'avoir détourné 500 millions de dollars. Une manifestation de femmes hier à Washington contre la nomination du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême des États-Unis. Il est accusé d'agression sexuelle par deux femmes. Et puis les trophées FIFA remis hier. Le footballeur croate Lucas Modric sort grand vainqueur. Il a mis le cap sur Marseille, mais ne sait pas encore où il pourra accoster. L'Aquarius 2 a fait hier une demande solennelle à la France pour pouvoir débarquer à titre exceptionnel les 58 migrants à son bord, parmi eux 17 femmes et 18 enfants secourus au large de la Libye. Ce navire affrété par SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières pour venir en aide aux migrants se trouve dans une situation très délicate. Privé de pavillon, par le Panama, il cherche avant tout un port pour l'accueillir. Mais pour le moment, Sami Boukhalifa parie botte en touche et dit préférer une solution européenne.
Et tout laisse à penser que la France va de nouveau refuser de permettre à l'Aquarius de débarquer les migrants à Marseille. Matignon met en avant le droit maritime. En matière de sauvetage, il y a des règles et Paris compte bien les faire respecter. Ce que dit la loi, les naufragés doivent être débarqués dans le port le plus sûr et le plus proche. Dans ce cas, c'est Malte ou l'Italie. Mais ces deux pays sont catégorique hors de question d'accueillir l'Aquarius. Ce navire indésirable était encore au large de la Libye hier. Il fait désormais cap au nord. 4 jours de navigation pour atteindre les côtes françaises. Bref, une nouvelle crise semble se dessiner, comme durant l'été avec la fermeture des ports italiens. Seule l'Espagne avait été solidaire et l'Aquarius avait d'ailleurs accosté à Valence. Cette fois-ci, la situation se complique davantage puisque ce bateau vient de perdre son immatriculation. Il battait pavillon panaméen et le Panama, sous pression du gouvernement italien, aurait donc décidé de le lui retirer. Pour le moment aussi, silence absolu, aucune réaction internationale, personne ne semble se soucier du sort du dernier navire de sauvetage de migrants en mer Méditerranée.
Merci Sami Boukhalifa. L'Aquarius va-t-il devenir un bateau pirate? C'est un article à lire sur notre site internet rfi.fr. Le grand ballet diplomatique a débuté à New York. Point d'orgue de cette Assemblée générale des Nations Unies, les discours des dirigeants toute la semaine. 130 présidents et chefs de gouvernement ont fait le déplacement cette année, y compris la première ministre néo-zélandaise accompagnée cette année de sa fille de 3 mois. Tous monteront à la tribune dans un ordre bien précis. Le secrétaire général des Nations Unies d'abord, puis le président brésilien, suivi du président américain, suivront les dirigeants français, iraniens ou encore congolais. Chacun donnera sa vision du monde, un monde morcelé, divisé, qui n'arrive pas à s'entendre pour résoudre les grandes crises, de la Syrie au Yémen en passant par la Birmanie ou la Libye. À New York, Marie Bourreau.
L'Assemblée générale s'ouvre cette année dans une ambiance à l'image de l'état du monde, nerveux et inquiet. Cela explique sans doute l'affluence des chefs d'État et de gouvernement. Plus de 130 contre 114 l'année passée. Mais ce chiffre ne masquera pas les grands absents. Vladimir Poutine pour la Russie et Xi Jinping pour la Chine. Deux acteurs majeurs de la crise en Syrie et en Corée du Nord qui restent dans leurs capitales respectives. De même que le premier ministre indien Narendra Modi qui devait pourtant se voir remettre aux côtés du président français le titre de champion de la Terre. Paradoxalement, les représentants d'État portés par des mouvements populistes et nationalistes seront représentés en nombre de la Pologne à l'Italie, en passant par la Hongrie et l'Autriche. Les vents sont contre nous, estime d'ailleurs un ambassadeur occidental qui espère très modestement que la diplomatie saura se montrer efficace sur des dossiers comme le climat, faute de parvenir à des résultats sur les grandes crises en cours en Syrie ou au Yémen. Marie Bourreau, New York, RFI.
Le Yémen ou la guerre guerre dure depuis 3 ans et demi entre les rebelles houthis et les forces gouvernementales soutenues par la coalition arabe. Un conflit très meurtrier, un désastre humanitaire aussi, auquel il faut ajouter les exactions commises par l'un et l'autre camp. Ce matin, l'ONG Human Rights Watch publie un rapport sur les graves abus commis par les rebelles houthis contre les détenus et les otages qu'ils retiennent. L'ONG a documenté au moins 16 cas d'exactions. Autre conflit dans l'impasse, la Syrie. Le régime syrien est en train de reprendre le contrôle de la province d'Idlib, dernier bastion encore aux mains des rebelles et des djihadistes. Des troupes syriennes épaulées par la Russie. Moscou vient d'ailleurs de livrer des missiles S-300 à Damas. Et ce n'est pas pour rassurer Israël. Une semaine après la destruction d'un avion militaire russe par la défense antiaérienne syrienne, l'État hébreu s'inquiète de l'usage que pourrait faire la Syrie d'un tel arsenal. À Jérusalem, Michel Paul.
C'est le premier ministre israélien qui a téléphoné au président russe. La fourniture de systèmes d'armement hautement sophistiqués à des éléments non responsables va renforcer les dangers dans la région, a notamment affirmé Benjamin Netanyahou. Israël continuera à veiller à ses intérêts et à assurer sa sécurité. Netanyahou a souligné la crédibilité de la version israélienne de l'incident au cours duquel un avion russe a été abattu par la DCA syrienne. Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou sont tombés d'accord pour préconiser la poursuite de la coordination militaire entre les deux pays. En Israël, on essaie de minimiser la portée du déploiement prochain des missiles antiaériens S-300. D'anciens responsables militaires indiquent que cela n'empêchera pas les raids de l'aviation israélienne. Par contre, on se montre plus inquiet à propos du brouillage électronique que les Russes menacent d'activer en cas d'opération israélienne. Les nouveaux missiles aux mains des Syriens représentent une menace pour l'aviation civile dans la région, estime un expert militaire, et un commentateur l'affirme. Désormais, Israël devra réfléchir à deux fois avant une attaque dans l'espace aérien syrien. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Il a passé sa première nuit en prison. José Filomeno dos Santos, le fils de l'ancien président angolais, a été interpellé hier à Luanda et placé en détention provisoire. Il est accusé, entre autres, d'avoir détourné 500 millions de dollars du temps où il dirigeait un fonds d'investissement public. José Filomeno est le premier membre de la famille de José Eduardo dos Santos à être arrêté dans une affaire de corruption. En mars dernier, il avait été inculpé pour avoir ordonné un virement de 500 millions de dollars vers une banque suisse basée en Angleterre. Léa Lisa Westerhoff.
C'est parce qu'il y a de nouvelles accusations de corruption que le fils dos Santos a finalement été placé en détention préventive. Car selon le procureur général angolais, la justice a rassemblé des preuves d'actes de corruption, mais pas seulement. Blanchiment d'argent, perception indue d'avantages, association criminelle ou encore escroquerie sont quelques-uns des crimes listés. Des délits passibles de 8 à 12 ans de prison. Mais le fils dos Santos n'est pas le seul accusé dans cette affaire. Jean-Claude Bastos de Moreis, homme d'affaires angolo-suisse, est lui aussi placé en détention provisoire. Très proche du fils dos Santos, il a géré une partie du fonds souverain, cette enveloppe de 5 milliards de dollars dont José Filomeno dos Santos avait la responsabilité. Aujourd'hui, c'est cette gestion qui leur est reprochée. En mars dernier déjà, le fils dos Santos avait été inculpé pour avoir ordonné un virement de 500 millions de dollars vers une banque suisse basée en Angleterre. Placé jusqu'ici sous contrôle judiciaire, José Filomeno dos Santos avait promis de collaborer avec la justice de son pays. Hier, il a finalement été emmené dans la cellule de l'une des principales prisons de la capitale en raison de la gravité des faits, a justifié le procureur dans un communiqué.
RFI 9h08 à Paris. Elles étaient des centenières devant le siège de la Cour suprême à Washington. Des femmes rassemblées pour protester contre la nomination du juge Brett Kavanaugh. Un juge visé par 2 plaintes pour agression sexuelle dans les années 80. Hier, le président américain, qui l'a choisi, lui a redit son soutien, dénonçant au passage un complot politique. Inacceptable, selon Marie, une femme de 53 ans qui, comme le juge Brett Kavanaugh, était étudiante dans les années 80. Marie n'a pas souhaité donner son nom car sa famille ignore tout ce qui lui est arrivé à l'époque. Elle témoigne au micro de notre correspondante à Washington, Anne Corpey.
Ma génération était dingue avec la drogue, l'alcool et les abus contre les femmes étaient courants à l'époque. Vous savez, j'ai été agressée sexuellement 3 fois. Et quand ça vous arrive, vous pensez que vous êtes la seule et c'est le problème. Il faut le dire parce que l'on se sent moins seul. Quand cela vous arrive, vous avez peur. C'est quelque chose que vous essayez d'oublier, vous essayez d'avancer, mais c'est toujours là. Et le truc, c'est qu'avec ce qui se passe en ce moment, tout ressurgit. Christine Blasey Ford a dû se souvenir de cet incident. Et la voir se souvenir de son histoire, ça fait remonter ma propre histoire. Et c'est dur. Vous savez, je ne voulais pas être ici, mais je n'ai pas le choix. Nous devons parler maintenant. Cela doit empêcher la nomination de Kavanaugh. Et si cela n'est pas le cas, cela aura un effet sur les élections de mi-mandat. Il y aura une vague démocrate et elle sera menée par les femmes.
Marie, une femme rencontrée hier par Anne Corpé à Washington lors de la manifestation contre la nomination de Brett Kavanaugh à la Cour suprême des États-Unis. Hier, le juge Kavanaugh est sorti de son silence. Il a accordé une interview avec son épouse à la chaîne de télévision Fox News. Il a aussi adressé une lettre au sénateur américain pour dénoncer les calomnies dont il est victime. Difficile de trouver une station au service ouverte, un commerce ou une administration ouverte aujourd'hui en Argentine. La population va observer une grève générale pour protester contre les mesures de austérité imposée par le gouvernement du président Mauricio Macri. Le pays traverse en effet une grave crise économique avec un début de récession, un peso très dévalué et une inflation forte. Pour faire face, le gouvernement a dû faire appel au Fonds monétaire international et couper dans le budget. Hier, des centaines de personnes sont descendues dans la rue pour dire non aux mesures du gouvernement. Reportage à Buenos Aires de Jean-Louis Buchet.
Dans une ambiance de kermesse, des milliers de personnes ont manifesté à Buenos Aires à la veille de la grève générale. Lydia est fonctionnaire et membre d'une organisation péroniste.
Aujourd'hui, nous marchons contre la politique économique mise en place par Macri de la main du FMI et qui affame les travailleurs. Nous demandons un changement complet de politique économique. Ce modèle ne bénéficie qu'aux riches.
Jeune réceptionniste, Maria n'est ni militante ni syndiquée, mais elle fera grève.
Je dois économiser sur l'alimentation ou vraiment sur des dépenses de base, y compris de santé. On en arrive à une situation limite pour des travailleurs comme moi de classe moyenne basse.
Employé administratif, Pablo ira travailler tout en soutenant les revendications.
Depuis le début de l'année, l'inflation a été très supérieure aux prévisions et mon salaire, qui se réévalue en début d'année, n'a donc pas suivi. Je vois que mon pouvoir d'achat a beaucoup baissé.
La grève est un avertissement pour le gouvernement, mais il n'y aura pas de remise en cause du plan d'ajustement. Ce mardi, le président Mauricio Macri, actuellement aux États-Unis, annoncera un nouvel accord avec le FMI. Jean-Louis Buchet, Buenos Aires. RFI.
Vers une transition sans heurts aux Maldives, hier, le président sortant battu Abdoulaye Amin a reconnu sa défaite à la présidentielle face à l'opposant Mohamed Soli. Il a promis de transmettre le pouvoir le 17 novembre au terme de son mandat. Une réaction aussi inattendue que sa défaite, car Abdoulaye Amin avait mené l'archipel d'une main de fer ces 5 dernières années, n'hésitant pas à emprisonner les opposants politiques. Ces conclusions étaient très attendues en France. Le Comité national d'éthique vient de rendre ses préconisations en vue de modifier la loi sur les questions d'éthique et il se dit favorable à l'ouverture de la procréation médicalement assistée pour les femmes seules et les couples de lesbiennes. Cette PMA est actuellement autorisée seulement pour les couples hétérosexuels. En revanche, le comité se dit défavorable à la légalisation de l'euthanasie. Et puis ce mardi 25 septembre marque la journée d'hommage national aux harkis en France. Une cérémonie aura lieu à 11h, heure de Paris aux Invalides, en l'honneur de ces Algériens qui ont combattu aux côtés des troupes françaises durant la guerre d'Algérie. Des harkis jamais vraiment considérés par les gouvernements successifs. Aujourd'hui, la secrétaire d'État aux armées devrait annoncer plusieurs mesures, dont une enveloppe de 40 millions d'euros sur 4 ans pour venir en aide aux enfants des combattants harkis de deuxième génération qui vivent en grande précarité. Ce sont un peu les Oscars du football. La Fédération internationale de foot remet hier les trophées FIFA. Dans le rôle du meilleur joueur, c'est le Croate Lucas Modric qui a été couronné. Didier Deschamps, lui, est sacré meilleur entraîneur de l'année. A noter qu'aucun joueur français n'a reçu de distinction, mais 3 des champions du monde figurent dans l'équipe de l'année. Mbappé, Varane et Kanté, aux côtés de Messi, Hazard, Ronaldo ou encore Modric, qui s'affirme donc un peu plus comme le grand favori du Ballon d'Or, Martin Guez.
Le meilleur, le best, c'est bien lui. Après une décennie de règne incontesté du duo Cristiano Ronaldo-Lionel Messi sur les récompenses internationales individuelles, le Croate Luka Modric a donc rompu l'hégémonie. Pièce maîtresse au milieu de terrain, son sens de la passe et ses frappes chirurgicales ont mené le Real Madrid à une 4e victoire en Ligue des Champions en 5 ans. Des qualités techniques au-dessus de la moyenne, mais aussi un meneur d'hommes. Lui, le capitaine de la Croatie, qui a hissé son petit pays jusqu'en finale de la dernière Coupe du Monde. Compétition dont il a d'ailleurs été élu meilleur joueur. Meilleur joueur de l'année également selon l'UEFA, l'instance organisatrice de la Ligue des Champions. Une double consécration à 33 ans. Et Modric voit donc triple désormais avec ce prix The Best du meilleur joueur FIFA de l'année 2018. Une récompense qui passe donc sous le nez de Cristiano Ronaldo, lui qui avait remporté les deux dernières éditions. Le Portugais de 33 ans, véritable machine à marquer en Ligue des Champions. Il en est le meilleur buteur avec 121 buts, dont 15 la saison passée avec le Real. Mais CR7 n'a pas eu le même parcours que Modric à la Coupe du Monde. Mondial difficile également pour Mohamed Salah, l'Égyptien finaliste de la Ligue des Champions l'an passé avec Liverpool, qui partait de plus loin pour ce prix The Best. Une nouvelle distinction qui affirme donc un peu plus Luka Modric comme le grand favori du Ballon d'Or qui sera remis au mois de décembre.
Martin Guez, il est neuf.
You're now listening to Dance in a Bangar Productions.
Docteur, je souffre. Je me sens seul parfois, je me sens exclu du numérique. C'est grave, docteur ?
Cher monsieur, comme un quart des Français, vous souffrez d'électronisme.
D'électro-quoi ?
D'électronisme, c'est-à-dire qu'il vous manque les clés nécessaires à l'utilisation et à la création de ressources électroniques. Avez-vous entendu parler du syndicat de la presse sociale ? Ils ont fait de la lutte contre l'électronisme leur cheval de bataille. Ça vaut peut-être le coup de vous rendre sur sps.fr.
Merci docteur, je me sens déjà mieux.
Vous écoutez Fréquence Mistral 92.8.
Et si seulement j'avais pu te dire ce que j'avais.
Et nous poursuivons cette matinale avec, dans quelques instants, la prise à l'antenne de la parole de François Malabave et d'un groupe de parents d'élèves et de professeurs de Manosque du Collège du Mont-d'Or. Nous allons retrouver dans quelques instants des parents d'élèves et des professeurs du collège Jean Giono qui vont venir s'exprimer au micro de François Malabave. Vous êtes dans la matinale sur Fréquence Mistral et je vous ouvre le micro de Monsieur François Malabave qui va vous parler d'une petite problématique locale. Nous avons des invités dans le studio. Bonjour François.
Bonjour James, bonjour à tous. Oui, effectivement, il y a un sujet d'inquiétude en ce moment au collège Jean Giono à Manosque et nous accueillons des parents d'élèves et également des professeurs pour parler de ce problème qui est un problème à la fois d'effectifs mais aussi et surtout de moyens. J'ai le plaisir d'accueillir Estelle Filionlos qui est professeure, puis également Ise Huron, professeur aussi au collège, ainsi que Olivier Pellaé qui lui est parent d'élèves. Bonjour à tous, on va tout de suite commencer, Estelle Filionlos. Que se passe-t-il dans votre collège ?
Bonjour, donc aujourd'hui les professeurs sont en grève associés avec les parents d'élèves au collège Jean Giono suite à des effectifs extrêmement nombreux et des difficultés à mettre en place un enseignement bienveillant auprès de nos élèves depuis la rentrée.
On peut dire aussi, on peut signaler que votre collège est en réseau d'éducation prioritaire, autrement dit que le nombre d'élèves maximum a priori dans une classe est fixé. Il est fixé à combien ?
Il est censé être fixé à 26, en tout cas dans une fourchette de 25-27, et toutes nos classes de 6e sont à 29 sauf une classe de, deux classes de 3e à 27 et deux autres à 28, ce qui nous semble des conditions de travail qui permettent pas à nos élèves de 3e d'obtenir leur brevet, encore moins en REP, ni à nos élèves de 6e de rentrer dans le collège dans des conditions agréables.
Vous aviez prévu cette rentrée scolaire en surcharge dans certaines classes ?
Nous avions prévu, puisque nous avions déjà rencontré le DAZEN au mois de mai dernier.
Alors le DAZEN, c'est le directeur académique des services de l'éducation nationale, autrement dit anciennement inspecteur d'académie, le patron des enseignants dans le 04.
C'est ça, donc on avait déjà signalé que les prévisions nous semblaient complètement erronées. On l'avait donc dit à notre chef d'établissement, puis donc à son supérieur hiérarchique. Les deux nous répondant « mais si, vous inquiétez pas, nos prévisions sont les bonnes. Et s'il y a un problème, nous résoudrons celui-ci à la rentrée. » Nous arrivions donc à la rentrée de septembre, espérant que ce problème soit résolu, puisque dans les faits, il y a dans l'établissement 35 ou 40, là ma collègue pourra peut-être mieux vous répondre, élèves supplémentaires aux prévisions qui avaient été faites par l'administration.
Alors vous avez en plus des profils d'élèves puisque vous êtes en réseau d'éducation prioritaire et notamment des enfants qui ne maîtrisent pas le français. Et ça c'est important puisque vous êtes obligé de vous adapter. Ils sont comptés cependant comme tout à fait des élèves courants, ce qui est très bien au niveau des valeurs de la République, mais qui en termes de pédagogie est complètement différent.
Dans la réalité, donc ces élèves arrivent en France, ils ne parlent pas français. Il y a un dispositif particulier dont vous parlera ma collègue qui s'appelle UP2A qui leur permet d'avoir un soutien par rapport au français. Mais ils sont présents dans nos classes et on essaye tous de les aider à ce que ça se passe dans de bonnes conditions pour ces élèves-là. Et pour le détail, je passerai le relais à ma collègue.
Ce sont des élèves très volontaires en plus.
Des élèves très volontaires et pour lesquels on est très fiers d'avoir réussi, ne serait-ce que l'an dernier, à envoyer plusieurs d'entre eux en lycée général. Et pour ceux qui étaient en troisième, on arrive en une année à les rendre, pour certains d'entre eux, brillants. D'entre eux sont des élèves brillants.
Ce sont des belles victoires à mettre à votre actif, mesdames et messieurs les enseignants.
En tout cas, on apprécie énormément de travailler avec ces élèves, tout comme avec ceux qui ont un handicap, puisque vous verrez dans la suite qu'il y a quand même un petit problème avec tous ces élèves-là. C'est que c'est un plaisir pour les enseignants de le faire, sauf si à un moment, on considère qu'il n'existe pas ces élèves fantômes.
Alors, je vais me tourner vers Ise Huron.
Oui,
vous êtes également professeur.
Bonjour.
Vous avez combien d'élèves qui sont concernés justement par cette mauvaise maîtrise de la langue française au départ ?
En fait, ça touche beaucoup plus largement que les élèves qui arrivent dans le dispositif de nouveaux arrivants.
C'est pour ça que je fais cette remarque aussi.
Alors, effectivement, on a des classes surchargées dans un réseau d'éducation prioritaire. Ce sont des élèves qui sont fragiles et qui ont besoin d'être accompagnés de toute façon dès la 6e. Or là, avec des classes à 29, c'est pas possible. Et il y a aussi effectivement une bataille des chiffres, puisqu'on a appris là en septembre que le directeur académique souhaitait retrancher de nos classes et nous enlever de nos classes 17 élèves qui sont concernés par ce dispositif de nouveaux arrivants ou un autre dispositif dont on n'a pas parlé qui touche des élèves qui ont des troubles de l'apprentissage et des troubles cognitifs.
Pourquoi est-ce qu'il voulait enlever ces élèves des effectifs ?
Parce que selon lui, comme ils sont dans des dispositifs un peu particuliers, ils ne sont pas comptés dans nos effectifs de classe. Or, nous, ils sont dans nos classes, on les compte, ils comptent pour nos élèves. Ils sont à 70% de leur temps, de toute façon, dans les classes. Donc, c'est totalement faux que de nous dire que, comme ils relèvent de dispositifs particuliers, il faudrait qu'on les enlève de nos dispositifs classes. Ils font partie de nos 29 classes et sont dans des dispositifs d'inclusion. Donc, le principe de l'inclusion, c'est d'être dans nos classes, c'est d'être dans nos élèves. Ce sont nos élèves.
Et dans ce cadre-là, effectivement, il faut donner les moyens aux enseignants Exactement. De pouvoir réussir ces inclusions qui sont demandées et qui sont absolument recommandées. À vos côtés, Olivier Pellaé, qui lui représente les parents d'élèves. Pour l'instant, ils ne sont pas encore. Il n'y a pas eu d'élection au sein des conseils de parents d'élèves, mais les parents d'élèves sont également inquiets de cette situation.
Oui, nous devons rester mobilisés finalement depuis des années, puisque comme vous le disiez au départ, il s'agit d'un réseau d'éducation prioritaire. Et nous nous rendons compte depuis quelques années que nous avons déjà suivi ces mobilisations et ces luttes des enseignants pour la qualité de vie et d'enseignement des élèves depuis l'école élémentaire qui est dans le réseau du collège Jean Giono, comme certaines autres écoles. Bon, pour la Lucas, il y a quelques années, nous avons dû accompagner les enseignants dans leur lutte pour éviter une fermeture de classe. Et il est un peu regrettable de devoir systématiquement soutenir des enseignants et des élèves en souffrance dans l'école publique. Si on voulait réellement soutenir l'école publique, il faudrait que les engagements soient respectés en termes d'effectifs et en termes de réalité de terrain. Et ces luttes mathématiques sur le nombre d'élèves énervent un peu l'ensemble des adultes qui s'occupent des enfants, parce qu'elle nous renvoie à ces difficultés depuis plusieurs années dans l'école publique. Donc nous restons mobilisés, nous sommes prêts à accompagner les enseignants dans les jours qui viennent s'il faut être plus nombreux et plus actifs dans les revendications. C'est d'autant plus irritant que les élèves à besoins particuliers dont vous venez de parler sont justement des élèves particulièrement à soutenir et qu'il est tout à fait regrettable que ce soit leur présence qui amène à un faux débat autour des chiffres et des effectifs en classe. Voilà, donc nous restons attentifs à cette situation comme on l'est en général aussi sur les écoles élémentaires du réseau, parce que je le rappelle, ce sont des réseaux d'éducation prioritaire qui sont fondés sur l'étude des difficultés sociales et socio-économiques des quartiers concernés par tous ces enfants.
Vous avez assisté comme moi à la rentrée au niveau du gouvernement et les déclarations et les situations qui sont avancées notamment par Édouard Philippe, le Premier ministre, et puis par Jean-Michel Blanquer, votre ministre. En gros, le Premier ministre dit on met le paquet sur l'école primaire, on oublie le collège, c'est ça que ça veut dire ?
C'est ça qui est prévu, effectivement. C'est une bonne chose de mettre l'accent sur l'école primaire, puisque c'est le début des apprentissages. Néanmoins, au collège, on ne peut pas fonctionner avec des effectifs tels que les nôtres. 29 élèves en 6e, c'est gâcher toutes les années futures des élèves. Dans la mesure où en 6e, il y a quand même un gros travail sur la méthodologie, l'apprentissage. C'est les débuts du collège, donc il faut vraiment que ces débuts-là soit serein et qu'on puisse nous les aider chaque jour dans leur début au collège.
Je vais être encore plus clair. Est-ce que vous avez peur qu'on sacrifie une génération d'élèves ?
C'est un peu ce qui arrive là cette année. Les sixièmes, selon moi, sont sacrifiés. 29 élèves, on sacrifie la classe.
La suite du mouvement, Estelle Filion-Los, où est-ce que vous allez ?
C'est l'avenir qui nous le dira. Le soutien des parents d'élèves compte beaucoup. Pour l'instant, il y a une quasi-unanimité. La grève est générale dans l'établissement. Bon, quelques collègues sont présents pour diverses raisons qui les regardent. Mais donc voilà, c'était une journée de grève. Elle a été programmée. On est reçu ce soir par le DAZN. Tout dépend aussi donc de la réponse que ce monsieur voudra bien donner à nos réalités, puisque... Voilà, lui nous parle de chiffres et nous, on lui parle de la réalité concrète de nos élèves.
En tout cas, nous, de notre côté, nous vous soutenons. Bien évidemment, il s'agit de l'éducation de nos enfants. C'est prioritaire dans un pays. Et évidemment, on restera en contact et on contactera également Éric Lavisse, votre DAZN, comme vous dites, pour avoir son avis sur la question. J'espère que tout va bien se passer, évidemment, pour votre quotidien, mais aussi et surtout pour le quotidien des élèves. Bon courage à tous.
Merci.
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 Ainsi s'achève la matinale de ce 25 septembre. Vous l'avez entendu, il y a quelques problèmes au collège Jean Giono et c'est important pour les élèves, classe de 29, difficile en 6e pour apprendre dans ces conditions, évidemment. Donc, pas de poids, de mesure. Normalement, tous les élèves devraient pouvoir apprendre sereinement avec... tous ces professeurs et ces parents d'élèves qui se mobilisent pour que les enfants puissent apprendre paisiblement et de manière égale. Ainsi s'achève cette matinale. On vous retrouve à 10h. On se retrouve à 10h dans le journal de François Malabave, présenté par François Malabave. Aujourd'hui, les thèmes abordés doucement mais sûrement, la fibre arrive à Villeneuve, lâchez prise ce week-end à Curban pour reprendre votre vie en main, rock, électro, hip-hop, chansons, reggae et jazz à Manosque, il s'agit de la rentrée de la Maison des Jeunes et de la Culture de Manosque, le Pas du Loup, un refuge pas comme les autres, ça, on partira donc vers Briançon. L'espace Horizon Inaccessible, une nouvelle émission sur notre antenne. Et nous recevons ainsi Jean-Jacques Hibeau, qui garde un souvenir impérissable d'une nuit d'été de 69, où un certain Neil Armstrong fait un grand pas. Depuis, il fait une émission, il a préparé une émission qu'il va présenter régulièrement sur notre antenne. À tout à l'heure, 10h.